Bonjour, je vais vous faire une étude ce soir, quelque chose qui intéresse beaucoup de monde et dont beaucoup de chrétiens se moquent. Alors je vais en parler afin que vous soyez bien au courant. Dans Jude chapitre, enfin il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un verset, un chapitre, Jude, il est dit... Au verset 12, qu'il y a des gens qui sont des écueils dans nos agapes. Ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheur impie ils ont proférées contre lui. Toujours méchants, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent en suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Jude cite le livre d'Enoch. Il cite une prophétie du livre d'Enoch. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il possédait le livre d'Enoch et qu'il y croyait. Je vais vous faire un peu d'histoire. En 586 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone a détruit le temple de Salomon à Jérusalem. Le peuple de Dieu est parti en captivité jusqu'en 536 avant Jésus-Christ. Le second temple ne sera construit qu'en 516 avant Jésus-Christ. Les Perses ont ensuite envahi et dominé sur Israël jusqu'en 332 avant Jésus-Christ. Et puis ce sont les Grecs qui ont occupé le pays jusqu'en 140 avant Jésus-Christ. Et puis les Romains deviendront les nouveaux envahisseurs jusqu'en 63 après Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que 200 ans avant la naissance de Jésus, le pouvoir grec retire les sadocites de la grande prêtrise au temple. Les sadocites, c'était ce qui était imposé par Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir de ça. Alors, le peuple de Dieu est scandalisé par cette hellénisation forcée, c'est-à-dire... Aujourd'hui, on dit le français est anglicisé. Eh bien là, c'était la religion qui était engrecisée, hellénisée. Et ça les choquait parce que ça n'était plus des vrais prêtres. En effet, Tsadok est l'ancêtre de la famille sacerdotale des Sadocites qui a été, depuis David, le seul sacerdoce légitime. Alors on trouve ça dans 2 Samuel 8, 16, vous irez le chercher si ça vous intéresse, et dans Ézéchiel 40, 46. Tsadok était descendant d'Aaron, on trouve ça dans 1 Chronique 5, 29, 38. C'est très important. Le temps passe et 37 ans avant Jésus-Christ, les Romains donnent l'autorité à Hérode. Le culte de l'empereur est rejeté par les Juifs qui organisent alors une résistance. Elle va devenir une véritable guerre civile. En 66 après Jésus-Christ, Titus, l'empereur, assiège Jérusalem et finit par incendier le temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus avait dit dans le temple, il ne restera pas pierre sur pierre, etc. La prophétie est accomplie. Depuis, Israël n'est plus une nation. Il faut savoir également que lorsque les Grecs ont retranché la prêtrise sadokienne, les Esséniens, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui une secte, les Esséniens les plus fidèles à Dieu sont partis au désert elles se sont établies en communauté de vie près de la mer Morte. À leurs yeux, les prêtres qui avaient été placés au temple de Jérusalem étaient illégitimes. Ils avaient raison. Dans ce qui était la religion officielle, il y avait donc deux grands courants, les sadducéens et les pharisiens. Je pense que vous êtes au clair avec ces deux mots. Les Esséniens prirent tous leurs livres sacrés, dont le livre d'Enoch, et ils sont partis au désert de Judée. Les troupes romaines, bon, ils ont fini par détruire la communauté des Esséniens en 70 après Jésus-Christ. Il y en a qui disent que c'est en 68, enfin, bon. Mais ces hommes sages, conduits par Dieu, avaient caché dans des grottes tous les manuscrits précieux qu'ils possédaient. Par ses serviteurs, les Esséniens, Dieu a caché ces livres, et parmi eux, il y a des extraits de copies du livre d'Enoch, datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Le livre d'Enoch a été écrit il y a environ 5300 ans. C'est aussi l'avis de Joseph Milik, le célèbre épigraphiste et prêtre catholique polonais, qui a toujours affirmé que ce livre précédait celui de la Genèse, c'est-à-dire qu'il était écrit bien avant Moïse. Le livre d'Enoch a souvent été critiqué par les religieux juifs parce qu'il dérangeait. Et vous allez mieux comprendre pourquoi il dérangeait en lisant le livre d'Enoch. Puis, en 364 après Jésus-Christ, c'est au tour de l'Église chrétienne de prohiber définitivement ce livre. Ceux qui lisent ce livre, le livre d'Enoch, tombent sous la condamnation de l'Église. Charmant, n'est-ce pas? Tous ceux qui lisent le livre d'Enoch tombent sous la condamnation de l'Église. C'est ainsi que le livre d'Enoch a disparu. Durant 1400 ans, il était tenu caché. Cependant, l'Église éthiopienne et certains juifs d'Égypte le tiennent pour inspiré et le lisent dans les églises. Il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est le rétablissement de toutes choses. Et Dieu révèle à nouveau ce livre au monde. Le 29 novembre 1947, l'ONU décide le partage de la Palestine, juifs et arabes recevant leur zone définie. Ce vote mémorable avait déclenché une explosion de joie parmi les communautés juives du monde entier, autant que parmi les ressortissants juifs déjà établis en Palestine. Or, ce même jour, le 29 novembre 1947, le professeur Sukenik, spécialiste de paléographie judaïque à Jérusalem, a fait connaître au monde la valeur exceptionnelle d'une sensationnelle trouvaille archéologique, les fameux manuscrits de la Mer Morte, les livres que les Esséniens donc avaient cachés dans les grottes. Le sort d'Israël, voyez, est étroitement lié à celui de ses propres écritures. Elles ont ressurgi des antres de la terre quand le peuple hébreu renaissait. En France, la communauté habitait à Sarcelles à l'époque, lors du culte du dimanche 7 juin 1987, jour de la Pentecôte, j'ai donné une prophétie annonçant que Dieu allait augmenter notre connaissance par une parole. Et puis j'apprends par la télévision l'existence de la traduction des livres de la Mer Morte le 9 juin 1987. C'est-à-dire deux jours après. J'apprends par la télévision l'existence de la traduction de ce livre. Et le 9 juin 1987, c'est-à-dire deux jours après que j'ai prophétisé, je suis entré en possession du livre qui s'appelle « La Bible, écrit intertestamentaire » aux éditions Gallimard dans la collection « La Pléiade ». Vous pouvez l'obtenir. Vous devez l'obtenir. Depuis, j'ai rencontré beaucoup de monde, dont M. André Caco, le 26 novembre 1998 à Paris, à qui je rends un hommage pour son travail dans l'équipe qui se trouvait sous la direction de M. André Dupont-Sommer et M. Marc Filonenko pour l'édition de ses manuscrits en français. On a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Dans cette magnifique édition de la Pléiade, j'aurais jamais pu commencer mon travail de recherche. Heureusement qu'ils l'ont traduit en français. Je ne prétends pas que tout ce qui se trouve dans les commentaires me soit venu à l'esprit tout seul. Il est vrai que j'aime être à l'écoute dans la prière, mais vous comprendrez aussi que pendant toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de personnes de valeur et de très beaux livres qui m'ont inspiré. Ce que vous allez découvrir en lisant mon livre, que vous pouvez trouver sur révélationbible.fr, ce livre s'appelle « Paroles cachées ». Je vous laisse dès aujourd'hui le fruit de mes recherches minutieuses et je prie le Seigneur Jésus afin que mon travail aide les élus dans leur préparation en vue du retour imminent de leur divine époux sur les nuits du ciel pour l'enlèvement de sa petite épouse Philippe, fidèle. Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Encore dernièrement, un frère qui n'est pas de la communauté, ceux qui sont de la communauté sont au courant, un frère qui n'est pas de la communauté m'a écrit, oui, mais enfin, c'est tout de même un livre apocryphe. Apocryphe, ça vient du grec apokryphos, qui signifie caché, secret, difficile à comprendre. Ça signifie pas douteux ou faux. Ça, c'est ce que les théologiens ont lancé dans le public et les gens pensent, oh, pff, c'est un livre apocryphe, c'est douteux. Le livre d'Enoch est un livre apocryphe, il n'est pas douteux, il n'est pas hérétique, il a été tenu caché. Et je viens de vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, laissez-moi lire le premier chapitre du livre d'Enoch et puis je vais vous faire un commentaire. Chapitre 1, verset 1. Voici les paroles de bénédiction d'Enoch avec lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de la tribulation, quand seront exterminés tous les méchants et les impies, verront le salut des justes. Enoch, homme juste, qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux. Il parla et prononça ses paraboles, et voici ce que me montrèrent les saints anges. Vous voyez, au commencement, il parle de lui à la troisième personne du singulier, puis après, il parle à la première personne du singulier. Il dit « Je ». Ils m'ont montré. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu. Ce n'est pas pour la génération présente, hein. Enoch écrit ça, c'est pas pour la génération présente, mais pour une génération éloignée que je parle. Et mes frères et sœurs, nous sommes la génération qui a retrouvé les textes dans les grottes de la mer morte, des milliers d'années après. Je prends maintenant la parole au sujet des élus. Et c'est à leur sujet que je profère mon poème. Ce texte ne concerne donc pas tout le monde. Et mettez-vous devant Dieu pour recevoir la révélation de ce que je vais vous lire. Le Saint, le Grand qui trace sa demeure, le Dieu d'éternité, doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute son énergie, dans toute sa puissance céleste. Tous les veilleurs seront effrayés, tous seront consternés, tous seront terrifiés, mais les veilleurs fidèles chanteront les mystères par toutes les extrémités de la terre. Toutes les extrémités de la terre vacilleront. Les veilleurs, ce sont les anges, hein, les envoyés de Dieu aussi. Il continue, verset 6, « Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront abaissées, elles s'écrouleront devant sa face. comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, la terre s'ouvrira, se déchirera d'une violente déchirure, et un gouffre béant et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Les justes seront jugés en vue de leur récompense ou de leur non-récompense. Mais les justes obtiendront la paix, et c'est ce qu'il dit au verset 7. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu et il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Voyez, le rachat de nos corps, du corps des justes, des élus, aura lieu à ce moment-là. Ça, c'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 23. Ensuite, il continue au verset 9. « Voici, il arrive avec ses saintes myriades pour juger l'univers, faire périr tout impie, confondre toute chair, pour tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et pour les outrages qu'ont proférés contre lui les pécheurs impies. » Ah, ça, c'est ce que Jude nous cite. Vous comprenez? C'est Jude, versets 14 et 15, dans notre Bible. C'était retrouvé. Alors, les théologiens qui disent que le livre d'Enoch, enfin, ils disent plus parce que ils peuvent plus maintenant. On a retrouvé le livre d'Enoch dans des manuscrits de la Mer Morte et on sait que ils ont été écrits longtemps avant Jésus-Christ. Mais les théologiens disaient jusqu'alors que ce livre d'Enoch était un faux qui avait été écrit 200 ans après Jésus-Christ. Soit les théologiens, j'en connais des théologiens. Enoch parle ici de deux événements destructeurs. Premièrement, du déluge qui doit arriver, on l'a lu, hein. Et n'oublions pas qu'Enoch vivait avant que le déluge n'ait eu lieu. Et il parle aussi du jour terrible de l'Éternel qui mettra fin à l'existence des méchants après le jugement, du trône blanc qu'on trouve dans Apocalypse 20 à partir du verset 11. Ces élus qui seront délivrés et qui seront protégés, au verset 1, ce sont les justes qui ne se seront pas partis dans l'enlèvement et qui seront restés sur la terre pendant la tribulation. Parce qu'il y a des justes qui resteront sur la terre parce que, voilà, ils vous savez, les vierges sages et les vierges folles, c'est comme des vierges. Elles seront sauvées, mais comme au travers du feu, de la tribulation. Dieu ayant déjà fait la paix avec nous, par le sang de la croix, il fera la paix avec les élus qui n'auront pas été dignes d'être son épouse durant tous les âges, avec ceux qui seront restés sur la terre durant la grande tribulation. Ces gens sont des élus qui n'auront pas été parmi les vainqueurs qui sont mentionnés dans Apocalypse 2 et 3. C'est écrit, il y a, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des vainqueurs dans l'Église, et puis il y a ceux qui ne sont pas vainqueurs. Ceux-là, sont sauvés, mais comme au travers du feu. Le livre d'Enoch commence donc par une bénédiction, celle des justes élus qui croient ces choses. Au verset 3 et 4, Enoch parle de ce qui concerne une génération lointaine, verset 2, et nous savons par l'étude des Écritures qu'il s'agit de la fin du temps de la vraie Église de Jésus-Christ dans les nations. C'est écrit dans Actes chapitre 3 que Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses, et Dieu est en train de rétablir toutes choses, et il rétablit cette Écriture afin que nous la connaissions et que nous puissions en tirer un enseignement afin de nous sanctifier. Il faut comprendre ça. Il y a le temps de la fin des nations et le temps de la fin. Ce sont deux époques différentes. Les profanes ont tendance à les confondre. Ils parlent de fin du monde. La fin du temps des nations signifie la fin du temps de l'Église dans les nations. C'est l'époque qui nous concerne. La fin des temps aura lieu après le millénium, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Ce n'est donc pas demain la veille, hein, la fin du monde. Par contre, nous en sommes au temps de la fin des nations, de la véritable Église de Jésus-Christ dans les nations. Enoch sait, par révélation, que le mont Sinaï est l'endroit où Dieu posera ses pieds une première fois au temps de Moïse. L'esprit de prophétie parle souvent de plusieurs faits qui doivent se produire en donnant aux profanes l'impression d'une certaine confusion. Mais il n'y a pas de confusion pour ceux qui aiment plonger un regard prophétique dans les Écritures saintes. Toutes choses vont devenir claires pour ceux qui persévèrent à chercher. Mais ceux qui lisent superficiellement, voilà, parce qu'il faut lire la Bible, alors je lis la Bible, bon, évidemment, ils ne trouvent rien, ou pas grand-chose. Au verset suivant, 5 à 9, il reprend la description prophétique des temps de la fin où nous sommes parvenus. Le texte exprime donc une double réalisation, car Dieu apparaîtra non seulement sur le mont des Oliviers selon Zacharie 14, 4, mais aussi sur le mont Sinaï au moment charnière entre la grande tribulation et le millénium, car ce mont est très particulier. Vous trouvez ça dans Psaume 68, verset 17 ou 18. Ça dépend des versions. À propos du Sinaï, voyez aussi Hébreux 12, 20-21 et Exode 19. Je vous lis pas les textes, cherchez-les vous-même. Montrez que vous aimez Dieu et que vous voulez chercher. Celui qui cherche, il trouve. Mais il faut le montrer, il faut le démontrer. Comparez aussi Énoch 1, 5, 6 avec Apocalypse 6, 12 à 17 et avec Ésaïe 2, 12, 21. Je pense que vous allez devoir réécouter cette prédication et prendre des notes. Hein. L'expression veilleur se trouve souvent dans le livre d'Énoch. Elle est reprise par Daniel au chapitre 4, versets 13, 17 et 23 pour désigner les anges, les envoyés de Dieu. Alors, comparez Énoch 1, 2, 5, 6, 1, 10, 7, 12, 4, 14, 1, 3, enfin, tout ça si vous avez le courage d'aller voir mon livre que je vous offre gratuitement en PDF sur révélationbible.fr. Dans le livre des paraboles, ils sont souvent appelés « ceux qui ne dorment pas », comparé avec 39, 12, 42, 61, 12, 71, 7. Alors le verset 5 peut être rapproché de Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Le texte éthiopien était ici plus fidèle que le texte grec, parce qu'on avait, avant d'avoir découvert les manuscrits de la mer morte, on avait quand même deux livres d'Enoch, un livre éthiopien et un livre grec. Le verset 7 était centré sur la fin du monde que Apocalypse situe au jugement dernier, chapitre 21, 11, 15 à 19, 16, 17 à 21. Et la grande tribulation de ces temps doit précéder les temps messianiques du millénium. Voyez ces choses dans le livre « Le mystère de l'emblore révélé » que j'ai écrit. Vous le trouvez aussi sur révélationbible.fr, le mystère de l'emblore révélé. Je vous cache rien, hein, je dis les choses, mais bon, si vous voulez pas les savoir, vous savez, c'est excellent. En ce moment, ils viennent de ressortir Gaston Lagaffe, ils viennent de ressortir Tintin, Spirou, tout ça, ça distrait les gens. Mais il y a des choses plus importantes à lire pour nous chrétiens. Hein. Moi, je lis aussi Gaston Lagaffe, mais quand même, franchement, sérieusement, les Saintes Écritures, c'est notre nourriture. Le verset 9 de Énoch 1 est cité dans la Bible, dans le livre de Jude, au verset 14 et 15. Les deux textes sont très proches l'un de l'autre. La plupart des commentateurs évangéliques de Jude se sont empressés d'évacuer de leur esprit la présence insolite de cette citation. Quand ils ont vu que Jude citait Enoch, ils ont vite trouvé des trucs, des glissades pour renier ça. Le livre d'Enoch demeurait pour eux une formidable énigme. Il était incongru de poser des questions comme « Et si Enoch était bien l'auteur du livre qui porte son nom ?» Alors, ça aurait changé beaucoup de choses, parce que alors, si c'était vraiment l'auteur, il aurait fallu le mettre dans la Bible. Si le livre était inspiré, pourquoi ce livre n'est-il pas dans le canon des livres saints des confessions chrétiennes. Et puis une foule d'autres questions auxquelles je réponds dans mon bouquin. En lisant les commentaires des théologiens sur ces versets 14 et 15 du livre de Jude, vous apprendrez d'eux qu'il ne faut pas croire à la valeur de l'ensemble du livre d'Enoch. Seule cette citation aurait une valeur puisqu'elle a été rapportée par Jude, de même que Paul a aussi cité des auteurs non inspirés pour illustrer ses affirmations. Et puis il se base sur Actes chapitre 17, verset 28. Alors cette façon de voir les choses est une fuite devant des difficultés d'étude du livre d'Enoch. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun livre de la Bible qui peut être lu avec facilité. Disons qu'il faut chercher. Si on cherche, on trouve. Il y a des mystères qui sont révélés tout au long des années. Je me rappelle qu'il y avait une copine à ma mère qui disait « Mais comment ça se fait? Ça fait 20 ans que tu lis ce bouquin et t'en as pas marre ?» Et ma mère lui avait répondu « Mais j'y trouve chaque jour quelque chose de nouveau. » Et c'est surtout une volonté farouche de tenir cachés des textes qui dénoncent la méchanceté des religieux. Les religieux, les théologiens se défendent et le livre d'Enoch les accuse. Alors ils n'aiment pas trop le livre d'Enoch. En effet, la majorité des religieux veulent en faire à leur tête sans se préoccuper des petites gens qui ont faim, de soif et de vérité. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était quelque chose qu'il fallait que je vous dise, afin que vous ayez une sainte curiosité et que vous alliez sur mon site révélationbible.fr. Vous descendez sur la première page et vous allez trouver le livre « Paroles cachées ». Vous cliquez dessus et vous aurez tout le livre. C'est gratuit, c'est pour vous. J'y ai travaillé pendant 4 ans et j'espère que vous allez en profiter et être béni. Merci Seigneur de garder mes frères et sœurs dans la paix et de leur permettre de découvrir des choses que tu as tenues cachées pour notre génération. Merci Jésus. Amen. Au revoir.